Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale se prononce donc sur le projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République, le fameux NOTRe acronyme. Troisième et dernier volet de la réforme territoriale, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions, ce texte définit les compétences des régions, départements, intercommunalités et communes. Les élections départementales approchent et les élus s'interrogent, eux, sur les compétences qui les concernent du coup, quelles seront leurs attributions, c'est la question qui se pose tous et qui pour certains les empêche d'ailleurs de mener une campagne plutôt sereine. Le gouvernement qui avait justement reporté les élections départementales pour pouvoir mener cette réforme territoriale aurait-il mis du coup la charrue avant les bœufs? Ce week-end, le Premier ministre décrivait les départementales du 22 et 29 mars comme des routes électorales qui allaient droit dans le mur du Front National. Alors que propose cette réforme territoriale? Est-ce qu'elle va répondre à des questions politiques, économiques? Est-ce qu'elle va réellement contrer l'accroissement des inégalités et contrer également l'élargissement du fossé entre, pour le dire vite, une France des métropoles, dite dynamique et productive, et une France périphérique, pour reprendre l'expression de Christophe Guillouy, une France condamnée à la relégation. Pour parler de tout cela et décrypter cette actualité, nous avons sans doute notre spécialiste, le spécialiste de la question. Allez, Laurent Davzy, ne rougissez pas, c'est vrai. Après tout, quand on s'appelle Laurent Davzy, il connaît surtout professeur titulaire de la chaire Économie et développement des territoires au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes l'homme ad hoc. D'ailleurs, dites, vous êtes prolifique, c'est incroyable. On pourrait penser que vous êtes scénariste chez HBO, c'est comme West Wing ou House of Cards. Ça n'en finit pas, vos livres qui sortent comme des épisodes de séries, hein, et puis avec des couleurs magnifiques. D'ailleurs, il y en a un en couleur de France Culture, vous avez remarqué, c'est celui sur la crise qui vient. Troisième volet, hein, toujours à la République des idées, le grand malaise des nations, et qui s'appelle le nouvel égoïsme territorial. Mais auparavant, il y avait la crise qui vient, la nouvelle réforme territoriale, et encore auparavant, premier volet de la série, la République et ses territoires. Je peux vous demander ce qui vous passionne dans cette étude-là, et comment vous vous y êtes mis pour avoir juste la mécanique et la coulisse de vos études, qui font tout de même, il faut bien le dire, autorité en la question.
Pourquoi c'est trois
Qu'est-ce qui vous a pris d'étudier là-dessus?
J'ai un peu honte, mais en fait, il y en a cinq.
Oui, je sais.
Non, c'est tout bête, hein, c'est personnel. J'ai 62 ans, je serai bientôt à la retraite. Le contribuable m'a payé très généreusement comme professeur d'université depuis très longtemps. Et avant de me retirer, je fais cette espèce de bilan. Hein, je rends compte de ce que j'ai fait depuis une trentaine d'années dans des bouquins avant de.
Et vous faites ce bilan parce que c'est un bilan, pourrait-on dire quand même. Moi, je me permets de le dire, parce qu'à la lecture du dernier bouquin, qui est un bilan inquiet, le titre même d'ailleurs le dit, hein, toujours sur cette question de territoire, grand malaise des nations. Et là, il y a un mot qui n'existe pas dans les autres livres, hein. C'est le nouvel égoïsme.
Oui.
Donc on parlera plus en seconde partie.
C'est un mot un peu convenu, hein, tout le monde en parle, cet égoïsme. Mais l'autre point, c'est que il me semble, et là c'est un problème de coïncidence historique, il me semble que sur ces questions, qui sont quand même assez mal connues, maltraitées intellectuellement, on est aujourd'hui à un moment absolument charnière, historique. En France, comme dans les pays industriels, comme dans les autres pays, on va peut-être y venir, hein, on a un moment historique du point de vue des grandes mutations, des systèmes productifs, des grandes mutations. La crise des finances publiques depuis 2011 sonne le glas d'un certain nombre de mécanismes. Et d'ailleurs, la loi NOTRe dont on va parler est directement liée à ce qui se passe depuis quelques années. Donc on est à un moment de basculement à une échelle séculaire. C'est-à-dire vraiment, en ce moment, quelque chose qui est en train de changer lourdement. Donc avant de passer à la suite, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passait avant.
Alors c'est crucial, et vous dites, au fond, ça concerne des enjeux à la fois micro et macro, pour le dire vite, hein, au niveau local, national ici, et puis effectivement au niveau européen, voire mondial. Nous serons accompagnés dans cette émission par la deuxième partie par Frédéric Lazorte, ancien conseiller de Dominique de Villepin à Matignon, essayiste. Il est président d'une société en expertise et stratégie de communication, et il connaît surtout très bien l'état de l'intérieur et de comment cet État marche ou ne marche pas, et les enjeux réguliers autour de ces questions de réforme territoriale. Parce que ça n'est pas nouveau. Bonjour à vous, Frédéric Lazorte.
Bonjour.
On vous entendra, on vous laisse muer pour l'instant, et on vous entendra tout à l'heure en deuxième partie. Parce que, vous le disiez, il faut faire un peu d'histoire. Tenez, faisons un peu d'histoire. Souvenez-vous, et vous en parlez dans votre livre, Laurent Davzy, du rapport Guichard, intitulé « Vivre ensemble », hein, qui était sorti en 76 et qui préfigurait les lois de fer de 82. Eh bien déjà, nous sommes il y a très longtemps, au XXe siècle, en novembre 76, déjà, il parlait, au fond, de comment donner davantage au territoire plus de pouvoir et de compétences.
Il y a plus de 36 000 clochers en France, chacun symbolisant une commune. La commune est la première cellule administrative, la base même de la vie démocratique. Trop souvent, la vie de ses habitants a été marquée par les décisions venues d'en haut, c'est-à-dire de Paris. Cette grand-mère a vu sa commune changer, ses petits-enfants, quand ils ne joueront plus aux billes, la connaîtront déjà transformée. Sur les 36 000 communes, il y en a qui sont calmes. Le temps paraît s'y être arrêté. Certaines communes ont très peu d'habitants et des moyens financiers réduits. Parfois, tout à côté, on trouve des communes qui se développent rapidement. Les bâtiments modernes y poussent comme des champignons. La commission d'études qui était présidée par Olivier Guichard propose de rendre l'initiative locale aux communes, les départements et les régions assumant ce qui ne peut être fait à la base. Mettre en commun certains besoins et aussi certains moyens, tel est un des objectifs proposés. Pour y parvenir, il serait créé 3600 communautés de communes et 750 communautés urbaines, sorte de fédération communale.
Voilà, c'était en 76, Laurent Davy. Qu'est-ce qui a changé de 76 à aujourd'hui sur les préoccupations que l'on entend et du rapport, encore une fois, à l'État et au découpage et à ces territoires?
Bon, ce qui a changé, c'est que on est en 2015, on est au XXIe siècle. La France était organisée sur la base de son organisation initiale après la Révolution française, hein, qui était le département et la commune. Et aujourd'hui, on voit bien, et tout le monde le dit, c'est pas un scoop, hein, que ça se passe aujourd'hui au niveau plutôt des régions et des intercommunalités. Donc finalement, on a quatre niveaux de gouvernement, deux qui sont ceux d'hier, mais comme ceux d'hier, c'est ceux à la papa, on y est très attaché. Les 500 000 élus locaux en France, ça veut dire qu'en France, vous avez 1 million de personnes qui s'intéressent directement à l'action politique locale, parce que les 500 000 qui sont élus et les 500 000 qui ont été battus. Donc ça fait 1 million au total. Ça représente quelque chose d'absolument colossal. Et donc on peut considérer, évidemment, que c'est un avantage en soi, intrinsèque, hein, c'est une espèce d'irrigation de la vie démocratique. Ça, c'est dans cette organisation à la papa, c'est la commune, les 36 000 communes qui ont généré ça. En même temps, qui posent des problèmes de cohérence absolument effrayants, qui posent des problèmes démocratiques tout à fait effrayants. Je suis très jaloux de Jean Viard qui a sorti cette expression de la démocratie du sommeil. Le système démocratique communal, c'est un système où ne votent que ceux qui y dorment. Alors que ceux qui viennent y travailler tous les jours, prenez Paris, on est à Paris aujourd'hui, vous allez voir, je ne sais pas combien, 1 million de gens qui viennent travailler à Paris aujourd'hui, ils n'ont pas voix au chapitre. C'est les barbares de la cité grecque. Ils ne votent pas. Donc ça pose des tas de problèmes. Mais la commune, c'est quand même très, très inscrit. Le maire, ça reste quand même l'élu préféré des Français.
On y touche donc pas. Alors voilà, ça revient régulièrement dans les discours. Ça revient régulièrement, y compris dans les projets voilà. Là, sur ce nôtre-là, où finalement tout est épargné. Napoléon dort toujours sur ses deux oreilles, Laurent Davy.
On a ça sur le département aussi. Département, ouais. On est tous, pas tous, mais beaucoup, enfin à part les conseillers généraux et les sénateurs, beaucoup de gens pensent que le département n'a pas grande pertinence. Mais quand même, on y est extrêmement attaché. Donc finalement, on a deux nouvelles structures, deux anciennes. Les deux nouvelles auraient tendance à une dynamique de substitution, en fait, hein, mais en fait, qui est très contrariée et qui fait qu'on va se retrouver avec quatre. On reste, et on le voit bien dans la discussion sur la loi, on reste effectivement toujours dans ce dispositif ancien, même si on va l'éroder sérieusement, le pouvoir des communes, le pouvoir des départements, on va garder quand même ces quatre. C'est quand même un peu dommage. Le gouvernement avait annoncé quand même la fin des départements, notamment.
Ils seront bien là.
Ils seront là, il y a eu des négociations. Enfin, ils seront là, vous savez.
Mais Laurent Davy,
les choses changent rapidement.
Pour comprendre, là, en ce qui nous concerne aujourd'hui et ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui, au départ, guide, selon vous, la vraie motivation pour faire ce qu'on appelle une réforme territoriale? C'est quoi? C'est obéir, comme on le dit souvent, alors à des critères qui nous dépassent et qui sont au-dessus de nous, les fameux critères de Bruxelles? C'est pour obéir à une logique économique et faire des économies et du coup rendre quoi plus efficace un système de l'État en le décentralisant? C'est quoi? Aménager le territoire, c'est quoi? C'est réduire les inégalités. C'est quoi une réforme territoriale?
Mais c'est tout ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que tout ce que... Et d'autres objectifs encore. C'est un grand nombre d'objectifs et qui, malheureusement, comme souvent dans la vie, hein, aussi bien pour chacun de nous que pour les institutions, ces objectifs sont largement contradictoires. Ils sont en tension les uns avec les autres. Ce qui a quand même été l'élément provocateur, je crois, c'est quand même la crise des finances publiques qui fait qu'on rentre dans une phase tout à fait nouvelle, je disais tout à l'heure, dans la mesure où, en gros, on va dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais on pourrait monter avant, hein, la montée du pouvoir territorial s'est toujours accompagnée de plus de ressources. Toujours plus de ressources à dépenser, à distribuer. Depuis 2011, on nous dit, On nous dit pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça commence à être le cas, vu que la dotation globale de fonctionnement va être réduite très sérieusement dans les années qui viennent, mais on reste dans un système où le poids des dépenses publiques dans le PIB est resté quand même autour de 57%. Hein, depuis, ça fait quand même plusieurs années qu'on nous dit que ça va baisser. Ça n'a pas encore baissé, mais ça baissera. Ça veut dire qu'on rentre dans une phase nouvelle, qui est une phase où le pouvoir local ne sera plus un pouvoir qui s'organisera autour de la distribution de toujours plus de dépenses, toujours plus de ressources. Il y aura moins de ressources. Et puis la question, c'est la question de la rationalisation de l'action publique dans ce pays, là encore, qui est posée pour la première fois de façon cruciale depuis 2011, comme elle n'avait jamais été auparavant, même si c'était présent dans les discours dès les années 80, toutes sortes d'économistes disaient « Ouh là là, il faut commencer à se calmer ». Et j'irais même que, ce que je dis dans mon petit livre, c'est que la décentralisation en 84, alors, c'est un espèce de jeu de dupe un peu marrant, parce que d'un côté, on a effectivement les maires, le rapport Guichard que vous avez évoqué, qui lui plaide pour plus d'action locale, plus de décentralisation, et d'un autre côté, vous avez les économistes qui eux disent, de toute façon, le système centralisé français fait que le territoire est une espèce d'énorme système de demande permanente à l'État, on va toujours demander plus à l'État, décentralisation pour responsabiliser les élus locaux. S'ils veulent plus de dépenses publiques, qu'ils arrêtent de demander à l'État, qu'ils demandent à leurs contribuables. Et là, on va voir ce qui va se passer. Et c'était ça le principe directeur de la décentralisation. C'était un principe d'économie. Et comme toujours...
Et de responsabilisation.
Et de responsabilisation.
Et d'autonomisation.
Et on pourrait prendre 10 exemples, on n'a pas le temps ce matin, depuis 30 ans, de politiques qui visaient des objectifs et qui ont atteint l'exact inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été une montée énorme des dépenses publiques.
Pour quelle raison alors? Parce qu'au dernier moment, on n'ose pas. Parce qu'il y a des questions quoi, électorales, tout simplement, derrière.
Oui, il y a des questions politiques majeures. Et comme le système local est totalement relié au système national, vous avez une continuité complète entre les partis politiques, l'Assemblée nationale, le Parlement et les
politiques locaux. Et quoi, ce sont les effets locaux de la pérennité de notre bon jacobinisme éternel?
Non, c'est les effets d'une façon de mener le jeu démocratique, effectivement, où on a toujours vendu... faut pas non plus trop cracher tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai qu'on a eu une vision relativement démagogique du débat politique, avec effectivement toujours plus de dépenses, toujours plus de bénéfices liés à l'action publique. Et ça, c'est fini depuis 2011. On est dans une phase de responsabilité, et la réforme territoriale telle qu'elle a été conçue, le premier attendu, non écrit, hein, le premier attendu, c'est il faut rationaliser pour dépenser moins.
Alors, nous avons regardé, c'était dans La crise qui vient, Nouvelle force territoriale, nous avons vu que vous aviez bien lu, vous aussi, La carte et le territoire de Michel Houellebecq, paru en 2010. Et donc, on a voulu prendre cet exemple-là, se glisser dans vos pas, Laurent Davy. Souvenez-vous que dans La carte et le territoire, Michel Houellebecq imagine le futur d'un village dans la Creuse, Châtellu-le-Marché, 350 habitants. Et il imagine en 2030 un village racheté par les Russes et les Chinois, où poussent des cybercafé, montrant ainsi le dynamisme de nos régions. Alors, l'équipe des matins n'a fait qu'un pas, a téléphoné au maire de Châtellu-le-Marché, Philippe Séraphin, et a demandé ce qu'il pensait du scénario de Michel Houellebecq et est-ce que ce futur est réaliste pour ce village du Limousin. Philippe Séraphin répond à Amélie Perrault.
Non, pas du tout, hein. Ça semble pas du tout réaliste. D'ailleurs, vous voyez, c'était en 2010 et on n'a pas vu encore l'ombre d'un Chinois ni d'un Russe qui est venu s'installer à Châtelu. Non, c'était un délire d'écrivain, mais moi j'ai été maire pendant 6 ans, j'étais au conseil municipal pendant 13 ans, et c'est vrai que c'est la question que tous les gens se posent, c'est la démographie. Hein. Quand quelqu'un décède et tout ça, le renouvellement de la population est assez difficile, et ça se maintient malgré tout. Hein. Vous voyez, l'école est encore ouverte, enfin bon, ça se maintient, mais c'est toujours la question que les gens se posent. Ils disent bientôt ce sera complètement le désert, quoi. Mais ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville s'installer chez nous, quoi, ce qu'on appelle les périurbains, hein, viennent s'installer régulièrement. Ça renouvelle la population à peu près de manière équilibrée. Et puis on a aussi, peut-être pas les Russes et les Chinois comme disait Michel Houellebecq, mais une communauté d'Anglais, de Hollandais, d'Allemands qui Belge. Nous, le village de Châtellu-le-Marché, il a compté jusqu'à 1200 habitants. Aujourd'hui, on est à 350, 360 à peu près, voyez. Donc, on peut tripler ou quadrupler la population, ce ne sera pas un souci. Hein. Voilà, ce sera même très très bien. Hein.
Alors, puisque la réforme territoriale est d'actualité, deuxième question à Philippe Séraphin, le maire de ce petit village, cité par Michel Houellebecq et Laurent Davy. Que va-t-il se passer pour eux avec cette réforme territoriale ? C'est, je rappelle, un village de la Creuse, hein, qui fera partie de la super région Limousin-Aquitaine-Poitou-Charentes, prévue par la réforme, future super région dont la population de Limousin ne représenterait que 14%. Un village rural comme Châtelut-le-Marché, donc, est-il inquiet de cette réforme territoriale ? Réponse de son maire au micro d'Amélie Perrault.
Il y a une chose positive dans cette réforme territoriale, c'est l'intégrité du Limousin. Vous voyez, les trois départements du Limousin restent ensemble parce qu'il y avait, un projet qui séparait les trois départements, hein, qui envoyait la Creuse vers l'Auvergne, qui envoyait la Haute-Vienne avec les Charentes, enfin, et puis la Corrèze avec le Sud-Ouest. Et là, bon, on reste ensemble au moins, mais c'est vrai qu'on va être, nous, la Creuse, hein, on va être loin des pouvoirs de décision. Toutes les décisions qui sont prises par des gens qui sont dans des grosses communautés urbaines ou dans des villes, et c'est pas forcément adaptable dans nos petites communes. Hein. À chaque fois, la poste est menacée, l'école, voilà, si le nombre des élèves diminue, c'est menacé. Enfin bon, et j'ose espérer quand même que les instances dirigeantes de cette région vont prendre en compte toutes les aboutissants de leur région, hein, qui n'oublie pas les gens qui sont un peu éloignés, les gens qui sont un peu isolés, qui est des choses, quoi. Alors, on espère. On ne sait pas du tout de quelle sauce on va être mangé, mais on espère simplement, quoi.
Du coup, le maire de Châtelut-le-Marché se dit qu'il n'y a qu'une issue, le développement du tourisme.
Moi, je pense que dans 25 ans, ce ne sera pas très très différent d'aujourd'hui, où il y aura peut-être un petit peu plus de monde, parce que on s'aperçoit, par exemple, que la communauté urbaine de Limoges s'étend jusqu'à presque à la limite de notre territoire. Donc, on ose imaginer qu'il y a des gens qui vont vouloir s'éloigner un peu plus de ces zones urbaines et venir chez nous. Hein, donc, on espère ça. Et puis, c'est vrai qu'on a des atouts intéressants à Châtelut, c'est que c'est au niveau des paysages, on a les barrages, on a la plage, on a un volet touristique qui est intéressant. Donc, si on veut créer des grosses communautés urbaines, ben nous, on n'est pas tellement concernés là-dedans, quoi. Hein. Mais nous, on a notre carte à jouer, hein, à notre petit niveau, mais voilà.
Hein. Voilà, Philippe Séraphin, le maire de Châtelut-le-Marché, qu'on remercie, au micro d'Amélie Perrault. Oh, on a la plage à Châtelut, Laurent Davy.
Ben oui, super. Superbe. Bah, monsieur le maire nous dit que Houellebecq se trompe. Mais il se trompe sur la nationalité, hein. Il se trompe sur les Russes et les Chinois. Pour le reste, il ne se trompe pas. C'est des Anglais et des Hollandais, c'est aussi des Parisiens. Hein. On voit bien que ces territoires. Et c'est ce que Christophe Guy, lui, justement, devrait dire. Parce que lui, il nous parle d'une fracture qui fait qu'il y aurait les métropoles, 20% de la population qui s'en sort, 80% hors des métropoles, tous foutus. Non, il y a une partie très importante, c'est ce que je dis dans le livre, une partie très importante qui vit effectivement cette économie qu'on a appelée résidentielle, qui n'est pas méprisable, hein, qui est une économie du tourisme. Le tourisme, 150 milliards d'euros de dépenses touristiques en France sur les territoires, 7,5 points de PIB quand même, ça rigole pas. Les retraités mobiles, les retraités, on n'est pas loin du tiers des revenus déclarés par les ménages, hein, les pensions de retraite aujourd'hui, c'est colossal. La montée en puissance aujourd'hui d'actifs non salariés, de gens qui pointent pas, qui travaillent à la maison, qui vivent en famille, qui travaillent dans un monde de plus en plus dématérialisé, où on a effectivement des gens qui peuvent être intéressés à aller venir habiter dans ce village ou dans cette petite commune. Et en fait, on le voit aujourd'hui, la désertification a marqué le pas. Aujourd'hui, on a un regain de ces territoires.
Alors d'un mot, il y gagne ou il y gagne pas, lui, à la réforme territoriale? Vous avez vu ce qu'il dit quand même? Il dit voilà,
mais lui, ça fait
plus, il dit, on va être loin de tout.
Dire qu'il y gagne ou il y perd, vous dire qu'on sait ce que ça a donné depuis 80. On ne sait pas, il n'y a pas de bilan. Moi, je suis très étonné de voir l'importance qu'on accorde à l'organisation territoriale dans l'évolution de l'économie et sociale des territoires. À mon avis, ça change très peu de choses. C'est les phénomènes fondamentaux de fonctionnement de l'entreprise dans son rapport au territoire, des rapports des populations au territoire. C'est les mécanismes de formation du revenu à l'échelle nationale, la sécurité sociale, le budget de l'État. C'est ça qui a fabriqué les territoires. La décentralisation, alors je vais me faire massacrer, mais à mon âge, maintenant, c'est pas très grave. La décentralisation et les modalités d'organisation de l'action publique territoriale, on est dans l'enluminure, on est à la marge. Les fondamentaux de ce qu'est ce petit territoire et de ce qu'il a été et de ce qu'il sera ne se jouent qu'à la marge dans l'organisation territoriale.
En deuxième partie, nous passerons de ce micro au macro avec Brice Couturier.
Oui, un bouquin très important que celui qu'on présente aujourd'hui qui s'appelle donc « Le nouvel égoïsme territorial » de Laurent Davy. Certains critiquent la loi votée aujourd'hui en disant qu'avec Hollande, une fois de plus, eh bien, la montagne accouche d'une souris. Mais à vous lire, on a l'impression qu'il ne pouvait pas en être autrement. Tant le problème des niveaux de responsabilité était tout simplement mal posé.
Voilà, ce sera pour la deuxième partie avec vous, Laurent Davy et Frédéric Lazorte. Vous écoutez France Culture, il est 8h.